Donc, vous l'aurez compris, on va parler de combat spirituel, mais si je devais donner un titre, en fait, c'est le combat et spirituel. Et ça change tout. C'est pas vraiment la même chose. Et je veux qu'on lise un passage dans Exode 17, versets 8 à 15. Vous y êtes ? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que lui avait demandé, dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel est ma bannière ». J'aime ça, « L'Éternel est ma bannière », j'y reviendrai sur la fin de mon message. Vous connaissez certainement cette histoire, vous connaissez certainement le contexte, hein, Canaan n'était pas inoccupé, et le peuple d'Israël, hein, où c'était la destinée que Dieu avait prévue pour eux, avait déjà eu des conquêtes, des batailles. Et là, la Bible nous dit qu'ils arrivent là et qu'Amalek, avec les Amalécites, les attaque. Amalek est le nom de cet ennemi. Amalek aujourd'hui n'existe plus. Ce peuple n'existe plus. Mais Amalek est parmi nous encore aujourd'hui. La maladie est parmi nous encore aujourd'hui. Des crises peuvent être parmi nous encore aujourd'hui. Et sur le chemin de Canaan, sur le chemin de ta destinée, dans la foi, tu vas rencontrer des ennemis. Paul nous dira, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, dans Éphésiens 6. Et il va décrire un ensemble d'ennemis spirituels, et chacun d'entre nous, dans notre foi chrétienne, on sera amené à les confronter. Les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Voilà qu'aujourd'hui un homme peut aller se coucher en allant bien, et puis le lendemain, il peut commencer à être fatigué, puis commencer à avoir des symptômes, et quelques temps après, il peut avoir un cancer. Amalek vient. Amalek, c'est l'angoisse. Amalek, c'est les crises. Amalek, c'est la bataille dans ton âme, c'est la bataille dans tes pensées, c'est la bataille dans ton esprit. Amalek, c'est la bataille dans ta famille, avec tes enfants. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, dans Psaume 34. Nous ne sommes pas épargnés du malheur. Mais c'est quoi la suite ? L'Éternel l'en délivre toujours. Amen. On a un Dieu d'espérance. On a un Dieu d'espérance. Mes amis, nous sommes là dans la maison de Dieu, mais au milieu de nous, il y a des gens qui souffrent. Au milieu de nous, il y a des gens qui sont malades. Il y en a qui ont des problèmes financiers, il y en a qui ont des problèmes dans leur couple, il y en a qui vivent mal leur solitude. Mais quand Amalek vient pour nous combattre, qu'est-ce que fait Moïse ? Qu'est-ce qu'il fait Moïse ? Il met une stratégie en place avec Josué. Et moi, j'aime ça. Et pourtant, Moïse, c'était quelqu'un de fort, c'était quelqu'un de puissant. Tout le monde connaît Moïse. Et je veux te dire ce matin, quand Amalek arrive, tu ne dois pas vivre seul. On ne combat pas seul Amalek. Et ça va être vraiment la ligne rouge de mon message. On ne combat pas seul Amalek. L'unité est la clé. L'unité est la clé. Donc, ils vont mettre une stratégie ensemble. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, malheur à celui qui est seul. C'est dur. Et je ne veux pas amener de la condamnation aujourd'hui pour ceux qui sont seuls. Je ne veux pas rajouter une source de problème à ceux qui sont seuls. Mais la Bible, si nous dit malheur à celui qui est seul, c'est qu'à un moment, on a besoin de s'entourer. Es-tu seul ? Quand les problèmes arrivent, quand les problèmes sont là, es-tu seul ? La solitude, c'est une des choses les plus compliquées à gérer. J'ai été aumônier de prison pendant des années, j'ai vécu de très belles choses. La solitude, c'était la chose la plus compliquée à combattre pour les gars. C'était pas les bagarres, c'était pas ce qu'ils avaient fait, c'était pas l'enjeu au milieu de la prison, c'était la solitude. Et les gars, même les gros bras, ils se laissaient envahir. Et c'était dramatique derrière. En France, en Europe, on ne meurt pas de faim, on ne meurt pas de guerre. Mais des papis, des mamies, des hommes, des femmes, des jeunes décident de partir parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette solitude. Es-tu seul ? Puisses-tu dire à un Josué comme a fait Moïse, viens, on s'accorde. Puisses-tu trouver dans ce lieu un Josué ? Puisses-tu trouver dans ce lieu un Moïse pour dire, viens, je traverse ça, on a besoin de s'accorder, on a besoin de prier ensemble, j'ai besoin d'ouvrir mon cœur. C'est un encouragement que je te donne ce matin. Amalek ne se combat pas tout seul. J'ai relu dernièrement cet homme dans la piscine de Bethsaida, et pourtant c'est une histoire que j'avais lue plein de fois, et je ne sais pas, ça parle à tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas cette histoire-là ? Bon, ça va, tout le monde connaît. Et quand Jésus s'approche de cette personne malade, la personne lui dit, ça fait 38 ans qu'il est malade. Vous mettez à la place de personne en 38 ans, 38 ans qu'il est là, qu'il attend juste quelqu'un qui le met dans cette piscine, et il ne l'a pas trouvé. C'est dramatique quand même, c'est dramatique. 38 ans, le gars, il n'a trouvé personne, on va dire, dans son église, dans son groupe de maison. Il n'avait pas de frère ou de sœur pour l'amener dans la piscine. Il avait vraiment besoin de Jésus. Alors l'église n'a pas 38 ans ici, hein. On va fêter nos 10 ans, mais j'espère, je te le répète, que tu n'es pas seul, que tu n'es pas seul. On est là, on est une assemblée. Voilà, je ne sais pas, il y a 100, 150 personnes, mais l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est aussi les braises, c'est aussi les services. Voilà, on a honoré les gens dans les services. Et je crois qu'à travers nos services, à travers les secteurs dans lesquels on sert, on a besoin de s'intéresser les uns aux autres. On a besoin de partager. On a besoin de parler, de s'aimer, de porter les fardeaux les uns des autres. Mais voilà, Moïse et Josué, ils sont là, ils se coordonnent, ils se mettent à côté, et il y a une stratégie qui se met en place. Moïse dit à Josué, choisis-toi des hommes et sors combattre Amalek. Choisis-toi des hommes. La stratégie se met en place et le combat arrive. La vie chrétienne, aussi belle soit-elle, est un combat. Et j'ai noté ça. La vie chrétienne est un combat entre la lumière et les ténèbres. La vie chrétienne est un combat entre la vie et la mort. La vie chrétienne est un combat entre la chair et l'esprit. La vie chrétienne est un combat de royaume, une confrontation de puissance entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres, ce monde ici-bas. Et là, on va voir que ce combat va se situer dans deux terrains. On a premièrement ce terrain naturel, ce terrain où Josué va intervenir avec ses combattants. Il ne va pas choisir n'importe qui. Il va choisir des combattants qui étaient habitués à se battre. Et là, j'ai noté que le terrain naturel, c'est le terrain charnel, matériel, visible, technique, intellectuel, judiciaire, médical, social, économique, psychologique. Et vous voyez dans notre Église, et ça c'est important, on n'a pas créé cette Église juste avec des gens gentils. Voilà, les gens qui ont créé cette Église, qui sont là, ce n'est pas juste des gens gentils. La louange, ce matin, Sandrine, qui est arrivée, elle n'a pas demandé... Qui veut chanter ? À la sono, ils en ont bien parlé, c'est des gars qui maîtrisent leurs boutons. Et là, vous dites, mais ils vont en venir où ? Je crois qu'il y a un choix de compétences qui est fait dans le domaine terrestre. Vous comprenez où je veux en venir ? Il y a un choix de compétences. Et je crois que Josué n'a pas choisi n'importe qui. Et je crois que dans ta vie, quand Amalek arrive, tu ne dois pas t'entourer de n'importe qui. C'est-à-dire que si tu as des problèmes d'argent, et que tu es à France Travail, tu dois aller à ton rendez-vous, tu dois aller t'entourer de gens qui sont faits pour ça. Tu dois aller t'aider peut-être d'un comptable qu'il y a dans l'entreprise, dans l'église. Celui qui gère la comptabilité dans cette église, c'est un professionnel. Si tu es malade et que tu vas chez le docteur, tu dois prendre tes médicaments. Et pourquoi je dis ça ? Parce que des fois, sous fond de spiritualité, et Dieu pourvoira, et Dieu guérit, et je crois que Dieu pourvoit, et je crois que Dieu guérit. J'ai vécu des guérisons à titre personnel. Mais je crois qu'il faut s'entourer de gens adéquats, de gens compétents. Amen. Amen. Et puis, il y a un deuxième terrain, et c'est là où je veux arriver, c'est le terrain le plus important. Le deuxième terrain se trouve où ? Il se trouve au-dessus, sur la montagne. Et là encore, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Moïse, il n'y monte pas seul. Moïse, l'homme qui parlait à Dieu, l'homme qui était en direct avec Dieu, l'homme qui a été utilisé dans cet Ancien Testament que tout le monde connaît, il avait besoin d'un Aaron et d'un Hur. Merci pour les Josué qui vont t'entourer à travers tes problèmes. Mais merci pour les Aaron et les Hur qui seront là pour t'aider à te garder les mains levées. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la disposition des mains dépend de l'issue du combat. Il y a un combat qui se déroule dans deux dimensions, une dimension naturelle et une dimension spirituelle. Mais nous voyons que c'est le combat spirituel qui a un impact dans la réalité physique. Quand Moïse garde les mains levées, Josué gagne. Quand Moïse a les mains baissées, c'est Amalek qui gagne. C'est quoi ce système ? Ça paraît incroyable. Les mains levées de Moïse représentent la prière et l'intercession. Les mains levées de Moïse représentent l'adoration. Les mains levées de Moïse représentent la présence de Dieu. Les mains levées de Moïse sont tournées vers le Seigneur pour dire « Seigneur, tu es celui qui combat pour moi ». Les mains levées de Moïse représentent le temps que tu passes dans ta chambre à prier. Les mains levées de Moïse ne sont pas visibles, mais ont un impact dans le naturel et le surnaturel. Elles vont décider de l'issue du combat. Mes amis, les mains levées nous apprennent à dépendre de Dieu. Et la Bible nous dit que Moïse doit garder les mains levées jusqu'au coucher du soleil. Oui, c'est long. Il y a des épreuves qui sont longues. Et des fois, on baisse les bras. Et je dis ce matin à certains, si tu as baissé les bras, c'est le moment de les relever. Et je dis à d'autres, si tout va bien dans ta vie, prie pour être un Aaron ou un Hur. On a besoin les uns des autres, les amis. Le temps fatigue la foi. On nous dit qu'il doit lever les mains tous les jours. Le non-exhaustion fatigue, peut décourager. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, l'issue du combat, ce n'est pas en bas, c'est en haut. L'issue du combat, c'est dans la prière, c'est dans la foi, c'est dans sa présence. Moïse n'a pas vu Amalek. Moïse ne se préoccupait pas de ce qu'il se passait en bas. Mais il savait qu'il y avait une guerre. Alors oui, tu ressens de la douleur. Oui, le mal est toujours là. Oui, les symptômes sont toujours là. Oui, ton péché peut-être ne te lâche pas. Ou la crise est toujours là. Oui, c'est toujours compliqué dans ta famille, dans ton couple. Mais garde les mains levées. Garde les mains levées. C'est vraiment un message d'encouragement ce matin. Tu as le droit d'être fatigué. Et quand tu es fatigué, c'est là que tu as besoin d'être entouré. Va voir des frères, des sœurs. Va voir des frères, des sœurs en disant « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de vivre avec toi. On va prier ensemble. Et on va vivre ensemble la guérison, la délivrance, la victoire. On l'a chanté. On a un Dieu de victoire. On a Jésus qui a tout accompli à la croix. Mais ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Et surtout, si tu as baissé les mains, c'est le moment de les relever. Père, Mère, de tes mains levées dépend de l'issue du salut de ta famille. Ne lâchez pas les parents. Peut-être que vos enfants vous exaspèrent, peut-être que vous êtes avec des ados, vous ne comprenez pas. continuer peut-être à les éduquer, continuer peut-être à cadrer, mais c'est à genoux dans les prières que le Dieu des esprits va aller toucher leur cœur. Marie, tu invites ta femme au resto, continue à le faire, fais-le. Elle n'est peut-être pas au Seigneur, mais c'est justement aussi en te mettant à genoux, en te mettant à genoux, que le Dieu va venir changer son cœur. Ou peut-être le tien. Ou peut-être le tien. On n'a pas le choix, les amis, que de prier. On n'a pas le choix, les amis, que de lever les mains. Vous voyez la société qu'on nous propose aujourd'hui, et on ne va pas revenir sur tous ces sujets, mais il faut qu'on soit là en église à prier les uns pour les autres. Je vois tous nos leaders là-devant qui ont créé cette église. Ils ont besoin aussi de nos prières. Vous savez pourquoi ? Parce que de leur main levée, de leur foi, de leur persévérance, de leur consécration, dépend de la grâce qu'il y a dans ce lieu. Et c'est pareil pour tous les pôles. Donc qu'on soit là pour les encourager, qu'on soit là pour encourager ceux qui font la sono, qu'on soit là pour encourager ceux qui font la louange. Peut-être qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, mais qu'on arrête nos gna. C'est le combat qui doit les fatiguer, là, ces gars-là. C'est avec leurs femmes. C'est le combat qui doit les fatiguer. C'est pas nous. C'est pas nous. N'oublions pas. Et tellement de fois, on se trompe de combat. On est comme des enfants gâtés et on se trompe de combat. Permettons vraiment à nos leaders de garder les mains en l'air. C'est pour notre intérêt. C'est pour notre intérêt. Et je t'encourage, toi aussi, à garder les mains en l'air. Parce qu'on voit qu'avec ça, chaque fois que tu auras les mains en l'air, il y a d'autres vies qui sont en jeu. Il y a d'autres victoires à avoir et tout. Depuis qu'on prie pour moi ce matin, voilà, j'étais torturé toute la nuit parce que je vis des choses très spéciales en ce moment. Dieu m'utilise énormément. Et je ne savais pas si je devais en parler. J'ai dit au Seigneur, si je dois témoigner, que je témoigne. C'est des choses très spéciales ce que je vis. Et je crois que je dois vous le partager. Ce n'est pas du tout pour me mettre au centre. Voilà, j'ai eu un gros changement dans ma vie spirituelle il y a un an. J'avais déjà témoigné de ça. Et j'étais un vrai bouillant à l'époque. Hein, quand j'étais aumônier de prison, voilà, je me sentais utile pour le royaume de Dieu. Et petit à petit, j'étais envahi par le travail et j'étais devenu un tiède. Et voilà, et il y a un an, avec un changement de boulot, avec des problèmes de santé, où Dieu marche et bénit, j'étais entouré par beaucoup de gens de l'Église, où justement on m'a aidé à me lever les mains. Le Seigneur sait que j'ai tendu les mains vers lui en disant, mais non, utilise-moi. Et c'est vrai que ça me manquait, ces rapports avec les détenus, parce que je pense vraiment avoir les codes pour parler avec ces gens-là, je suis encore en lien avec certains. Mais Dieu m'utilise en ce moment de façon très spéciale. Ma sœur m'a appelé il y a un mois, et j'ai un petit cousin qui s'est pendu à Charol, et j'ai toute une famille à Dieu le Fils. Il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, voilà, ma mère s'est suicidée, j'étais petit, mon père a été assassiné, je l'ai retrouvé à 17 ans. Voilà, je suis parti en vrille pendant des années, je me suis tourné vers le Seigneur à 33 ans. La maman de Sacha qui s'est suicidée, c'est la sœur de ma mère. Et d'un seul coup, quand ma sœur m'a envoyé ce message, c'était très très dur pour moi, j'ai été bourré de compassion. Quelque chose qui, je pense, il y a quelques mois, ne serait jamais arrivé, parce que c'est tout un côté de la famille que j'avais délaissé, que j'avais rejeté, c'est un grand mot, mais j'avais délaissé. J'ai rejeté en bloc cet univers familial, parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Ce côté de la famille, voilà, on m'a dit qu'il pensait que c'est mon père qui avait assassiné ma mère. C'était très très lourd pour moi, c'était très très lourd. Et en même temps, juste compassion, je me suis dit, je vais aller à l'enterrement. J'y serais jamais allé il y a quelques mois. J'ai appelé Mela, j'ai appelé ma femme et j'ai dit, écoute, Mela, je crois qu'il faut que je sois une lumière. Je pense qu'il y a une grosse partie de la famille qui va me jeter, parce que je ne les ai pas vus depuis 10 ans, 15 ans, mais je crois que je veux être une lumière avec, au milieu d'eux. Il faut savoir que ma tante que j'allais voir a divorcé de mon oncle avec 3 enfants. Sacha, qui s'est pendu, était l'aîné. À l'époque, il devait avoir 15 ans, 16 ans. Elle s'est mise avec une autre femme, elle a eu 4 enfants avec l'autre femme, dont un des enfants qui est décédé. Il y a vraiment un esprit de mort sur ma famille, de suicide. Voilà, on reflète un peu la société. Et moi, j'allais là, dans cet univers-là, avec cet enterrement. Et j'arrive, j'étais en paix. Mais là, au dernier moment, on me dit, je viens avec toi. Voilà. Et ça m'a rassuré. On a prié tout le long. Je ne savais pas du tout comment j'allais être accueilli. Je peux vous dire, tout le monde m'a pris dans les bras. Je m'étais préparé, il dit, si on me jette, c'est pas grave. J'étais vraiment, vraiment en paix. Ma tante m'avait mis, Brice, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a pris dans les bras. Depuis, tous les deux jours, j'envoie un message. Tous les deux jours, je suis avec toi, avec Mélanie, on prie pour toi. Et bien sûr, c'est un drame ce qu'elle vit. Et hier, je l'ai appelé, j'ai dit, j'en ai marre, texto, je vais l'appeler. J'ai dit, salut, elle me dit, Brice, tu peux pas savoir tous les messages que tu m'as envoyés, tous les textos que tu m'as envoyés, comme ça m'a fait du bien. Je sais que tu t'es tourné vers Dieu, moi, tu sais que c'est pas mon truc, mais voilà, il y a eu vraiment un vrai échange et tout. Et je vais continuer, je crois que je vais être une lumière dans ma famille. Et je me sens appelé à ça. Et elle était en pleurs, je suis resté trois quarts d'heure avec elle au téléphone. Et j'ai dit, avant la fin d'année, là, on se voit. Elle me dit, mais ça me fait tellement du bien, je te présenterai mes autres enfants. Je ne sais pas ce que ça va donner. Elle va me présenter, je connais de vue sa copine ou sa femme, je ne sais même pas s'ils sont mariés. Tous ces enfants que j'ai vus un peu, mais que je ne connaissais pas, qui étaient à l'enterrement. Mais je veux y être. Parce que le combat, il est là aussi. Il est là aussi. Et moi, je veux être un Aaron, je veux être un Our, je veux être un Barnabas, un fils de l'exhortation. Un dernier témoignage avant qu'on passe dans la prière, parce que je pense que c'est important de prier ce matin. Je pourrais vous en donner 10 de témoignages, mais ce que je vis en ce moment, c'est un truc de fou. Je fais l'autre jour des courses à Leroy Merlin. Alors, je ne suis pas du tout bricolo, moi je ne vais jamais à Leroy Merlin. Je devais à l'action, je me trouve à Leroy Merlin. Voilà. Et même ma femme m'appelle, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas à Leroy Merlin? Mais non, mais je voulais un truc déco, au dernier moment, au rond-point, j'ai pris à Leroy Merlin. Je paye un gars derrière moi que je connaissais, il me dit, Brice. Je dis, oh, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, un ami de mon ancienne église, que je devais à l'époque accompagner dans le côté business et tout ça, mais j'avais vraiment pas le temps. Je lui dis, ben écoute, si tu veux, on se voit tous les vendredis, on peut discuter ensemble, moi je ne monte pas à ma boîte. Et il m'appelle et il me dit, ben voilà, vendredi dernier, je mange avec lui. Voilà, il commence à montrer sa société, il commence tout ça, et puis on va au restaurant tous les deux. Et je lui dis, et toi, comment tu vas avec ta femme? Comment ça va à l'église? Et c'est des gens qui étaient engagés à l'église, c'est déjà qui engagés. Puis je vois qu'il botte un peu en touche, ouais, ça va. J'ai dit, tes filles, il a trois filles. Ben, la grande, elle s'est baptisée il y a un an et demi. Je dis, cool, ben, merci Seigneur. Ouais, sauf qu'entre-temps, elle s'est mise avec un musulman et je pense que d'ici quelques mois, elle va se convertir. Et puis là, voilà, moi, la sauce chrétienne. Mais non, et on va prier, ce qui est semé, ce qui est truc, tout ça, et je l'encourage. Je lui dis, ta deuxième. Et puis là, sa voix, elle commence à sangloter. Ben, ma deuxième, elle est devenue un garçon. 20 ans. Il me dit, on savait qu'elle avait un regard bizarre depuis qu'elle est petite, mais elle est partie faire ses études à Grenoble. Elle est revenue, elle avait pris rendez-vous chez le docteur. On a tout essayé. On lui a dit de faire peut-être une thérapie, parce que voilà, l'opération, ben, c'était irréversible. Elle ne nous a pas écoutés. Voilà, aujourd'hui, il faut l'appeler Lucas, elle a une voix d'homme. Et j'ai ma troisième petite qui voit ça dans la maison. Elle me dit, Brice, j'arrive plus à aller à l'église. Brice, j'arrive plus à prier. Et vous savez, quand on est abattu comme ça, quand on a les mains baissées, on en veut au monde entier. Donc il en voulait à l'église, il en voulait à l'accompagnement des pasteurs, il en voulait. Et on a tous tendance à être un peu comme ça quand on est découragé. Je lui ai dit, moi, je vais continuer à prier pour toi. Et je lui envoie des messages. Et je vous dis, je ne me mets pas au centre de cette histoire. C'est vraiment Dieu qui va agir. Et je veux l'encourager. Et hier encore, il m'a appelé. Parce qu'à côté de ça, il y a des super fruits, des gens pour qui j'ai prié, qui m'ont envoyé des messages et que ça va bien aujourd'hui. Je suis content, mais les amis, la société a besoin de chrétiens qui prient. La société a besoin, peu importe comme tu pries, on ne te demande pas de prier comme Olivier, comme Cyril Cerdan, comme les Africains, comme tout ça. Non, 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 non. Mais on doit s'encourager les uns les autres. Alors merci pour tous les Josué qui ont des dons, des talents, qui vont accompagner les gens seuls dans leurs problèmes, dans le monde naturel. Mais merci pour les Aaron et les Our qui sont là à encourager, à lever les bras, qui discernent les gens qui sont fatigués et qui s'intéressent aux autres. Mais toi, si tu es fatigué, c'est ton rôle aussi de le dire et de rechercher des Josué, des Aaron, des Our. C'est le gros que je voulais vous partager ce matin. En conclusion, vous l'aurez compris, c'est bien que Josué soit dans le naturel, c'est bien que Josué combatte, mais la victoire ne s'est pas faite en bas. C'est bien ce que tu fais, c'est bien d'agir, mais as-tu encore les mains levées ou as-tu les mains baissées? Le combat spirituel, c'est comprendre que dans la prière de la foi, le Saint-Esprit est capable de te donner la victoire. Le combat spirituel, c'est de comprendre que le spirituel impacte le naturel, que ce que nous scellons en bas est scellé en haut, et ce que nous décelons en haut est décelé en bas. Le combat spirituel, c'est de comprendre que quelles que soient les solutions naturelles, médicales, psychologiques, économiques, sociales, c'est dans ton lieu de prière, c'est avec les mains levées que tu as un avantage. Amalek n'a jamais compris cet avantage et Amalek a été vaincu. Je te le répète, on a un avantage. On a un avantage. L'Éternel est ma bannière, qu'est-ce que j'aime ça. L'Éternel est ma bannière, ça veut dire Seigneur, j'élève ton nom. Ça veut dire Seigneur, tu es le camp auquel j'appartiens. Seigneur, tu combats pour moi. Ça veut dire Seigneur, tu es la stratégie de ma victoire. Ça veut dire Seigneur, tu as gagné le combat à la croix. L'Éternel est ma bannière, ça veut dire, comme on peut lire dans le psaume 20, ceux-ci s'appuient sur leur char. Cela sur leurs chevaux. Mais nous, toi, moi, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et nous restons debout. Est-ce qu'on peut se lever, les amis ?